Vous écoutez Radio France Internationale, il est 4h ici à Paris, 3h en temps universel, 19h à Las Vegas.
Gali Bonin.
Au lendemain d'une attaque meurtrière en Louisiane, les États-Unis poursuivent leur enquête. Le conducteur qui a foncé dans une foule et a tué 15 personnes aurait été inspiré par le groupe djihadiste État islamique. À Las Vegas, c'est un Cybertruck de Tesla qui a explosé devant l'hôtel Trump. La piste terroriste n'est pas écartée et l'enquête cherche des liens avec l'attaque du jour de l'an à la Nouvelle-Orléans. En Europe, fini le gaz russe qui transitait par l'Ukraine depuis le 1er janvier. Kiev a fermé les robinets. Comment va s'organiser la Slovaquie, fortement dépendante de ses importations? On fera le point dans ce journal. Et la Pologne qui prend la tête de la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, Varsovie, a des ambitions pour l'Europe, en ligne de mire la transition écologique du continent. On terminera ce journal au musée militaire à Paris. Pour attirer des familles et un public plus jeune, l'établissement a eu une idée audacieuse, reconstruire des batailles importantes de l'histoire de France avec des blocs Lego. Au moins 15 morts et des dizaines de blessés, c'est le bilan encore provisoire de l'attaque à la voiture Bélier qui a frappé le cœur de la Nouvelle-Orléans. Un homme au volant d'un pick-up a foncé dans la foule durant le réveillon du Nouvel An. Il aurait ouvert le feu sur les policiers qui ont tenté de l'arrêter. Les enquêteurs envisagent la possibilité d'un acte terroriste. Selon le FBI, il n'aurait pas agi seul. Le conducteur a été identifié par les forces de l'ordre. Écoutez les déclarations d'Aleta Duncan, agente du FBI. C'était pendant une conférence de presse donnée mercredi soir à la Nouvelle-Orléans.
The subject has been identified as 42-year-old Shamsud Din Jabbar.
L'individu a été identifié comme étant Shamsud Din Jabbar, 42 ans, citoyen américain né au Texas. Nous ne pouvons pour l'instant entrer plus en détail sur son parcours, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'un ancien combattant de l'armée américaine. Il conduisait une camionnette Ford qui semble avoir été louée. Un drapeau du groupe État islamique a été trouvé sur la remorque du véhicule et le FBI s'efforce de déterminer les potentielles associations de l'individu avec des organisations terroristes. Des armes et de possibles engins explosifs improvisés ont été trouvés dans le véhicule. D'autres potentiels engins explosifs improvisés ont également été trouvés dans le quartier français. Nous travaillons avec nos partenaires pour enquêter sur cet acte terroriste. Nous suivons de près toutes les pistes afin d'identifier les éventuels complices. Et nous veillons à ce qu'il n'y ait pas d'autres menaces.
We're working to ensure that there is no further threat.
Aleta Duncan, agent du FBI, qui s'exprimait sur l'attaque à la Nouvelle-Orléans et les autorités américaines qui cherchent aussi un lien avec un autre événement qui a eu lieu à Las Vegas. Un Cybertruck de Tesla a explosé mercredi matin devant un hôtel appartenant au groupe immobilier de Donald Trump. Les autorités font état de 7 blessés et au moins un mort, une personne qui était dans le véhicule. Encore une fois, la piste de l'attentat terroriste est envisagée par les enquêteurs. Au Moyen-Orient, Israël a menacé d'intensifier ses frappes sur Gaza si le Hamas continuait de tirer des roquettes depuis l'enclave palestinienne. En marge d'un déplacement dans le sud du pays, le ministre israélien de la Défense a voulu envoyer un message clair au mouvement islamiste. Si le Hamas ne libère pas les otages et continue à tirer sur la population israélienne, il s'expose à une intensité plus vu depuis longtemps sur la bande de Gaza. Les propos du ministre surviennent au moment où les tirs de roquettes sur l'État hébreu ont augmenté ces derniers jours, sans faire de victimes. Depuis le passage de l'année 2025, la défense civile de Gaza rapporte déjà 25 morts. L'actualité, c'est aussi ce gaz russe qui ne traverse plus l'Ukraine pour atteindre l'Europe. Malgré l'invasion du pays en février 2022, les gazoducs du géant russe Gazprom continuaient d'alimenter l'est du continent en traversant l'Ukraine, mais le contrat est arrivé à échéance, ce qui a permis à Kiev de fermer les robinets, une décision qui inquiète en Slovaquie, un pays européen proche de Moscou. La Tchéquie voisine a proposé de lui venir en aide pour trouver de nouvelles sources d'approvisionnement. À Prague, la correspondance d'Alexis Rosenzweig.
L'arrêt du transit du gaz par l'Ukraine aura des conséquences dramatiques pour nous tous dans l'Union européenne, mais pas pour la Fédération de Russie, c'est ce qu'a déclaré le chef du gouvernement slovaque dans son allocution pour la nouvelle année. Robert Fico dissimule de moins en moins sa politique pro-russe, comme en témoigne sa récente visite au Kremlin où sa menace de couper les livraisons d'électricité à l'Ukraine Une menace dénoncée par le président ukrainien qui a accusé Robert Fico d'obéir aux ordres de Vladimir Poutine. Côté tchèque, les responsables contredisent les propos du Premier ministre Fico et indiquent que seule la Slovaquie sera affectée par la fermeture des gazoducs. Dans le même temps, Prague a proposé à Bratislava de lui livrer du gaz en provenance de l'Ouest et de puiser dans ses réserves. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Tchéquie a diversifié ses sources d'approvisionnement, avec notamment du GNL via les Pays-Bas ou du gaz norvégien, et plus récemment avec un accord signé pour la livraison de gaz algérien. Alexis Rosenzweig, Prague. RFI.
Parmi les autres pays touchés par cet arrêt du transit, la Moldavie et la Hongrie. La Hongrie qui a dit adieu à plus d'un milliard d'euros de fonds européens mercredi. Depuis 2022, la Commission européenne a suspendu une partie de ses versements à Budapest. Elle accuse le régime de Viktor Orban d'atteinte à l'état de droit. En tout, 19 milliards d'euros d'aides ont été gelés, mais ces aides européennes ont des dates d'expiration, après quoi les fonds ne sont plus accessibles. Et c'est justement ce qui est arrivé mercredi à plus d'un milliard d'euros offerts par Bruxelles qu'aurait pu toucher Budapest. La Hongrie encore, qui occupait depuis juillet la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Elle vient de passer le relais à la Pologne, un pays qui ne cache plus ses ambitions sur la scène européenne. Durant les 6 prochains mois, Varsovie devrait multiplier ses efforts pour tenter de faire avancer les dossiers de l'UE. Parmi les sujets prioritaires, celui de la transition écologique, estime Neil Makarov. Il dirige le think tank européen Stratégique Perspective.
En quelques années, la Pologne est passée d'être un champion du charbon à un peu un champion des technologies vertes, parce qu'il bénéficie fortement notamment du pacte vert européen qui a permis d'attirer de nombreux investisseurs sur son territoire. C'est ceux qui produisent 6 batteries européennes sur 10. Ils sont également champions dans les pompes à chaleur. Et donc, finalement, ils tirent vraiment bénéfice de cette transition écologique à l'échelle européenne. Et ça, je pense que le nouveau gouvernement de Donald Tusk en est assez conscient. Surtout que l'enjeu de la transition écologique dépasse très largement la question du climat. Typiquement, si on veut s'affranchir du gaz russe et notamment être plus indépendant d'un point de vue énergétique, eh ben, la transition, c'est le meilleur atout que l'on ait à l'échelle européenne. Après, il est vrai que sur d'autres pans de la transition, notamment sur les aspects plus environnementaux, la biodiversité, la Pologne fait partie, comme beaucoup d'États européens aujourd'hui, des plus réticents. Mais voilà, en tout cas, sur l'agenda climatique et industriel, je pense qu'on pourrait avoir des avancées significatives lors de cette présidence.
Neil Makarov, du think tank Stratégique Perspective. En Corée du Sud, la police a perquisitionné jeudi matin l'aéroport de Muan, dans le sud-ouest du pays. C'est là où le crash d'un Boeing a fait 179 morts dimanche dernier. Le siège de la compagnie aérienne Jeju Air, qui opérait le vol, a également été ciblé par les enquêteurs. Dans un communiqué, la police sud-coréenne a dit agir rapidement et rigoureusement pour déterminer la cause et la responsabilité dans cet accident aérien le plus meurtrier de l'histoire du pays. Et quand l'histoire militaire se prend au jeu, de grandes maquettes faites en figurines Lego et Kobe sont exposées jusqu'au 12 janvier au musée de l'armée aux Invalides à Paris. L'exposition L'Histoire en briques revient sur des événements et des batailles marquantes de la France, un terrain de jeu à deux pas de la sépulture de Napoléon. Le reportage sur place de Constantin Jalot.
Une exposition pour les familles au musée des Invalides, de grandes maquettes en briques de plastique Lego et Kobe, incarnent des scènes emblématiques de l'histoire de France du Moyen-Âge à la Seconde Guerre mondiale.
On va faire des périodes importantes pour les collections du musée de l'armée et pour l'histoire de l'hôtel des Invalides.
Sylvie Picollet est responsable du département culturel du musée.
On a celle qui est sous nos yeux, qui représente la Renaissance et les campagnes d'Italie par François Ier, où on va avoir un aspect bataille avec des canons, mais on va avoir aussi les hommes, les femmes, les enfants qui accompagnent forcément une armée pour transporter le matériel, pour soigner, etc.
Un mélange d'histoire et de jeu qui ravit les plus jeunes comme Hugo, 11 ans, venu en famille.
Moi déjà j'adore faire des Lego et c'était une bonne idée de faire ça parce que moi je connaissais pas par exemple qu'ils avaient pris 3 bateaux pour récupérer le corps de Napoléon.
Son père Guilin partage son enthousiasme.
Moi je trouve ça très intéressant, ouais. J'aime bien le côté très ludique, essayer de trouver des chauves-souris, essayer de trouver en fait tous les intrus qu'il peut y avoir. Il paraît qu'il y a une super chasse au trésor derrière, donc on va faire ça.
Des figurines sont dissimulées dans les autres collections du musée, un moyen d'inciter les familles à découvrir le patrimoine militaire des Invalides.
Et c'est avec ce reportage de Constantin Jalot que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi.